C'est une belle journée d'été, on aurait presque envie d'aller en terrasse pour se boire un petit verre.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Un Diabolo Menthe, par
allez,
exemple.
Allez, je vous invite après.
Allez, ça marche. Demain, on aura le même temps, quasiment le même temps. Ce sera un petit peu plus ensoleillé l'après-midi. On aura quelques nuages le matin et du soleil l'après-midi. Les températures 10 à 12 degrés. Et pour dimanche, des nuages le matin. Le retour du soleil une nouvelle fois l'après-midi. Les températures 12 à 13 degrés le matin. 22 à 24 degrés l'après-midi. Nous sommes en Bourgogne. Pour ce contre-la-montre, on fait le tour ensemble et c'est sur France Bleu Touraine jusqu'à 18h.
Ici, sur France Bleu, on fait le tour ensemble. Mathieu Ferry.
Et on est au milieu des vignes cet après-midi pour ce beau contre-la-montre avec des beaux paysages et un bel enjeu aussi. Les trois premiers du Tour de France sont sur la route, notamment le maillot jaune Tadej Pogacar. Restez avec nous, c'est peut-être un moment crucial sur ce Tour de France. Et oui, Louis de Bergevin, avec tous les coureurs qui sont partis pour ce contre-la-montre.
Ouais, le dernier, c'était Tadej Pogacar qui est parti il y a 4 minutes exactement. C'est le dernier à partir parce que c'est le premier du classement général. On fait partir dans l'ordre inverse du classement. Ça, c'est pour ménager le suspense. Ça veut dire que Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, ça y est, sont sur la route. Ils se sont élancés à 2 minutes d'écart chacun. Et désormais, ils doivent faire le meilleur temps. Pour l'instant, c'est détenu par un Belge, Victor Campenhardt de l'équipe Lotto Destiny qui a parcouru les 25 km en 29 minutes 44. Mais je peux vous dire, Mathieu, sans trop mouiller, que ce temps devrait tomber parce qu'on n'a pas encore les temps intermédiaires précis, mais quand on regarde pour l'instant à peu près les dynamiques, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard par exemple, ils sont à 25 oui. secondes d'avance pour Remco Evenepoel à l'instant.
En temps réel,
ouais. On nous dit, ouais, c'est exactement, ça veut dire que c'est impressionnant, ça va très vite et ça va nous donner des indications sur le classement général. Est-ce que Remco Evenepoel, qui a annoncé, hein, il est champion du monde du contre-la-montre, il a annoncé qu'il voulait remporter cette étape, est-ce qu'il va récupérer suffisamment de temps sur Tadej Pogacar, qui a le maillot jaune? Il y a 45 secondes d'écart entre les deux. Jonas Vingegaard est troisième à 5 secondes plus loin. Autant dire que c'est assez serré et c'est une étape extrêmement importante dans la bataille pour le maillot jaune. Normalement, ils vont tous arriver avant 17h30. Hein.
On va vous faire vivre, évidemment. Hein. C'est l'arrivée des meilleurs coureurs du classement général. Et sur France Bleu, on fait le tour ensemble avec Tadej Pogacar qui a actuellement, a priori, 23 secondes d'avance sur Victor Campenhardt, qui détient le meilleur temps. Je dis a priori parce que ce sont des écarts en temps réel selon le GPS, mais pour la fiabilité, évidemment, on verra ce qui se fait en fonction des points intermédiaires qui sont placés sur le parcours. Sur la moto France Bleu cet après-midi, il y a François Sauvestre. François, vous êtes dans la roue de Tadej Pogacar?
Effectivement, il y a une fusée jaune juste devant nous, fusée jaune, et avant il y a eu un festival de couleurs puisqu'on a d'abord eu une fusée bleu nuit, Jonas Vingegaard avec le nouveau maillot de la Visma Lisebike qui est parti très fort. On a assisté à ses trois premiers kilomètres sur la moto France Bleu avec Selim Guerrivi et on peut vous dire qu'il a fait déjà forte impression sur les trois premiers kilomètres qu'on a pu suivre derrière le champion danois, le double vainqueur sortant du Tour de France en 2022 et 2023. Ensuite on s'est arrêté en bord de route et on a vu passer une fusée blanche avec des rayons arc-en-ciel, le maillot de champion du monde du chrono, les liserés en tout cas arc-en-ciel pour Remco Evenepoel qui lui aussi a fait très très forte impression. Forcément ils veulent marquer les esprits, ils veulent surtout gagner les précieuses secondes. On rappelle que Remco Evenepoel en a 40 à boucher de secondes pour s'emparer du maillot jaune et battre Tadej Pogacar, peut-être remporter cette étape. Mais Tadej Pogacar qu'on a sous les yeux là au moment où on se parle ne va évidemment pas se laisser faire. Lui aussi, c'est un spécialiste du contre-la-montre. Lui aussi, eh bien, il veut se battre, pourquoi pas garder son maillot jaune. Et lui aussi, ça mouline très très fort sur des portions pour l'instant plates. On attend de voir ce que ça va donner dans la petite difficulté, c'en est pas une pour eux, hein, la côte de Vergy. Et on va surtout voir ce que ça donne au premier temps intermédiaire.
Ouais, alors justement, celui qui a la main sur le chrono cet après-midi, c'est Louis de Bergevin. On les a ces temps sur le premier intermédiaire, Louis.
Ça y est, on sait, il y a les deux premiers coureurs à passer sous les 10 minutes pour le premier intermédiaire, c'est Jonas Vingegaard, 9,50. Primoz Roglic, 9 minutes 59. Ça veut dire qu'ils battent largement, hein, pour l'instant, celui qui a le meilleur temps sur l'étape en entier, Victor Campenhardt. Canards. C'est sûr qu'il va être battu à la fin. Maintenant par qui? Par 1, 2, 3, 4 fantastiques peut-être. On suit ça. Pour l'instant, ça va très vite. Remco Evenepoel, ça y est, qui passe en tête au premier intermédiaire, 9 minutes 39. Wow. Ça veut dire qu'il a 11 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Tout ça en seulement un peu plus de 5 km.
Ouais, et on va attendre évidemment le temps de Tadej Pogacar, le maillot jaune, à ce premier point intermédiaire. François Sauvestre sur la Boto France Bleu cet après-midi. Racontez-nous comment il est ce parcours en fait au milieu des vignes. 25 km, le cadre est magnifique, mais est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur pour les coureurs ou pas?
Non, c'est pas très technique, c'est très roulant. Il y a cette côte effectivement à Vergy, 1 km 600 à 6,1% de moyenne, donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une bosse, surtout pour les spécialistes. C'est, on va dire que c'est une côte de puncher. Juste après la descente, n'est pas très technique. Là aussi, c'est roulant, l'asphalte est dans un état impeccable et les derniers hectomètres vers l'arrivée sont aussi très très roulants. On l'a suivi notamment tout ce parcours dans la roue d'un coureur qui a fait forte impression, c'est le jeune Normand Kevin Vauclin, ouais, de la formation bretonne Arkea BNB Hotel, qui à un moment a tenu la tête provisoire de ce classement du chrono de cette 7e étape du de cette 7e étape du Tour de France. Kevin Vauclin qui a été détrôné par Victor Campenaerts, ouais, et ça lui a permis de bien s'exprimer sur ce parcours au milieu des vignes sur ses 25 km 300.
Et vous faites bien de parler de Kevin Vauclin, François Sauvestre, parce que j'ai vu tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, il était plutôt satisfait de son parcours. Il vous l'avait dit, il a détenu pendant un petit moment le meilleur temps, le vainqueur de l'étape de Bologne en Italie, de la deuxième étape, Kevin Vauclin, qui fait son premier tour de France et qui s'est senti comme un poisson dans l'eau cet après-midi. On va l'écouter.
Ouais, j'ai senti les jambes. Au début, j'ai mal à mettre en rouge, je pense que c'est ça avec toute l'étape. Mais une fois dans la bosse, j'ai senti que j'avais pas poussé très fort, mais j'arrivais à maintenir et au final, j'avais pas vraiment mal aux jambes. Donc j'essaie vraiment de pousser dans la tête et je pense que je peux être satisfait de mon chrono. Je vais vraiment prendre du plaisir, voir qu'on est sur les routes du Tour, on scande mon nom dans chaque bosse. C'est ça le principal objectif, c'est de prendre vraiment du plaisir en roulant fort et les deux ont marché, donc c'est cool.
Kevin Vauclin qui a kiffé son contre-la-montre, on peut le dire comme ça. Un nouveau point rapide sur le chrono, lui de Bergevin. Pogacar un peu en retard a priori au premier point intermédiaire.
Ouais, il n'a que 3 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Ça y est, ils ont commencé à grimper désormais. Ça veut dire que le classement au premier intermédiaire, c'est Remco Evenepoel en 9.39, Tadej Pogacar 3 secondes après, Jonas Vingegaard 11 secondes, oh, et Primoz Roglic qui a déjà pris 20 secondes sur les 5 premiers kilomètres. Et
évidemment, on va vivre ça sur France Bleu cet après-midi. L'événement aussi, c'était Julien Bernard, le bourguignon natif d'ici, qui a roulé sur des routes qu'il connaît par cœur. Il y avait notamment un virage Julien Bernard avec ses supporters, et vous y êtes, Stéphanie Pernon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Bleu Bourgogne et vous étiez donc là où il fallait être, Stéphanie, cet après-midi en fait.
Exactement, j'y suis encore d'ailleurs, parce que ici les supporters de Julien Bernard attendent maintenant de voir passer Tadej Pogacar. En tout cas, ça a été un incroyable moment, une très très grande intensité, des chants, des cris au nom de Julien Bernard, des pancartes brandies et puis des t-shirts à son effigie, parce qu'on a essayé de faire ici un virage JB, un peu comme le virage Pinot, en plus modeste mais tout aussi exalté, surtout qu'ici on l'attend depuis ce matin quasiment 8 heures pour faire monter l'ambiance. Donc imaginez, quand il est passé, les copains, les anciens du SCO, le club de Dijon où il a été formé, et puis la famille, les amis, JB comme on le surnomme, il est passé au ralenti, en même temps il était...
Il s'est même arrêté, Julien Bernard, aussi, ouais, Stéphanie, non?
C'est ça, il a été obligé de s'arrêter parce que tous les copains, tous les gens ici l'ont entouré, lui ont vraiment montré qu'ils étaient heureux, extrêmement fiers de lui. Donc c'est vrai qu'il est passé plus qu'au ralenti, il s'est arrêté. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos ce soir dans les téléphones qui seront droites, parce que c'était compliqué de filmer tout ça. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, on espère qu'il s'en souviendra très très longtemps. Il y avait beaucoup d'émotions aussi du côté de Margot, sa compagne, qui était avec son petit garçon de 2 ans, qui souffre, qui est soulagé. Ouais. Il est passé, il a vu que tout le monde était là, et puis vu la cohue, je pense qu'il va avoir des images gravées longtemps dans la tête. C'était un peu le héros de ce contre-la-montre dans la bosse de Roel Vergy.
Et ben justement, le héros du jour, écoutez-le, Julien Bernard, sur la ligne d'arrivée. Beaucoup d'émotions pour le Bourguignon, après être passé dans ce virage, Julien Bernard, que vous nous avez décrit, Stéphanie, Julien Bernard.
incroyable, franchement. Ma copine, ça fait des semaines qu'elle travaille pour m'offrir ce moment, et franchement, c'est mieux que dans mes rêves. Depuis que j'ai vu que le tour passait ici, c'était vraiment un objectif dans ma tête. Ça m'aurait fait très mal de ne pas être au départ et de louper ce Tour de France. Et de ne pas pouvoir vivre ce moment. Et franchement, je suis super fier de moi d'avoir, dans un premier temps, gagné ma sélection avec l'équipe et d'avoir vécu ce moment. C'est un parcours magnifique que le Tour de France nous a offert. Et je suis... franchement, j'ai même pas les mots. Je réalise même pas ce que je viens de vivre. Là, il y avait tous mes potes, toute ma famille. C'était magnifique.
Julien Bernard, ravi sur la ligne d'arrivée ici à Gevrey-Chambertin après ce beau contre-la-montre au milieu des vignes. Restez avec nous sur France 2, on va écouter un petit peu de musique avec The Jackson 5, Blame It on Boogie, et puis on revient très vite pour vivre évidemment ce contre-la-montre qui peut être décisif cet après-midi. C'est la 7e étape du Tour de France et vous êtes bien sur France Bleu.
On fait le tour ensemble sur France Bleu.
Bien sûr France Bleu, c'était les Jackson 5, Blame It on Boogie.
Ici, sur France Bleu, on fait le tour ensemble. Mathieu Ferry.
Et on vit cette étape qui est peut-être décisive sur la route du Tour de France. On va rappeler la situation de course. C'est un contre-la-montre, évidemment. Louis de Bergevin dans les vignes aujourd'hui. Et les trois meilleurs du classement général sont sur la route. Et c'est plutôt un Belge qui est fort en ce moment, hein.
Ouais, exactement, c'est Remco Evenepoel qui est en tête encore au deuxième point intermédiaire. C'est impressionnant, il a 23 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard au deuxième chrono intermédiaire. C'est impressionnant parce que les autres temps des autres, notamment Victor Campenaerts, sont tenus longtemps, mais depuis que les quatre fantastiques sont partis, ces temps sont balayés, soufflés par la vitesse de Roglic, Vingegaard, Evenepoel. On attend le temps de Pogacar au deuxième point intermédiaire pour voir s'il perd du temps face à Evenepoel. En tout cas, pour l'instant, c'est Evenepoel qui a le meilleur, suivi de Jonas Vingegaard à 23 secondes et Primoz Roglic à 38 secondes.
Est-ce que la moto France Bleu est toujours derrière Tadej Pogacar, François Sylvestre?
On essaye de suivre avec Céline Guérémy qui me soufflait tout à l'heure, qui pilote la moto France Bleu et qui me soufflait tout à l'heure dans la bosse de la journée. Vous savez, on a suivi plusieurs coureurs, oui, sans leur faire offense. En les suivant à moto, on avait tendance presque parfois à devoir relancer la moto, presque à la limite de caler. Ben là, c'est pas du tout le cas. Là, ils sont partis pleine balle devant et on a presque du mal à les suivre. Il y a les voitures du staff et les voitures commissaires de course, mais ça dit quelque chose de ce qui se passe, ça dit du monde d'écart qu'il y a entre ces quatre-là. Tadej Pogacar notamment et le reste du peloton, les quatre, lui vous le disait.
La connexion un peu difficile pour la moto France Bleu au milieu des vignes ici en Bourgogne. On fait le tour ensemble cet après-midi, on est aussi avec Olivier Perrier. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Comment ça va Olivier?
Eh bien, impeccable, c'est le Tour de France, on est le plus heureux du monde.
Alors on va vous présenter, vous êtes historien du cyclisme, on peut le dire comme ça, hein, expert en tout cas de l'histoire du cyclisme et de l'histoire du Tour de France. Je sais que ça vous excite particulièrement ce type de rendez-vous, Olivier. Vraiment là, on sent qu'il y a des choses qui se passent dans un contre-la-montre comme ça, comme aujourd'hui, hein, entre la bataille pour le maillot jaune.
Ah ben c'est l'épreuve de vérité par excellence, hein. Le coureur est seul sur son vélo face au chronomètre et c'est là que se font effectivement la plupart du temps la différence pour le classement général. Il y a bien sûr les étapes de montagne où on peut établir des stratégies avec ses équipiers pour gagner du temps, mais là les coureurs sont seuls face au chronomètre et doivent tout donner eux-mêmes.
Bon, vous avez épluché vos fiches, je sais, avant de venir, Olivier. Dites-nous quand même quelles ont été les contre-la-montre décisives de ces dernières années. On pense évidemment à la planche des Belles-Filles il n'y a pas si longtemps, hein.
Ouais, c'est le dernier en date, oui, sur le Tour de France 2020, Tour de France particulier parce que c'est celui du Covid, il se déroule au mois de septembre. Et au départ de ce contre-la-montre, Primoz Roglic a le maillot jaune, il a 56 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. On pense à ce moment-là que le tour est joué et que le Slovène va l'emporter. Puis finalement, c'est le plus jeune Slovène, Pogacar, qui renverse le Tour de France puisqu'il met près de 2 minutes à son aîné sur la montée finale vers la planche des Belles-Filles et il remporte le Tour de France. Un contre-la-montre décisif le dernier jour ou presque, parce que là, c'était la veille de la arrivé. Et là, c'est vrai que cette année, on a aussi un contre-la-montre le dernier jour qui sera décisif, comme dans d'autres éditions, comme en 89, en 68 et plein d'autres années.
Ouais, on va en reparler avec vous. Hein. Vous restez avec nous tout au long de cette émission, Olivier. On fait le tour ensemble sur France Bleu. Et puis, puisqu'on parle de contre-la-montre et qu'on parle de Bourgogne et qu'on parle de Dijon, il y avait un certain Bernard, le père, qui s'est illustré. Je crois que c'était en 1987, Olivier, c'est ça?
Ah oui, alors 1987, il a remporté le contre-la-montre du Mont Ventoux. Il a fait un énorme exploit,
oui, surtout ça,
en repoussant,
ouais,
tous ses adversaires. Et puis, sur l'avant-dernière étape, sur le circuit autour de Dijon, alors qu'il n'est pas le même qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, il avait également remporté le contre-la-montre, le deuxième contre-la-montre de ce Tour de France, qui fait que Jeff, malheureusement, c'est le seul coureur qui a gagné 2 contre-la-montre dans un Tour de France sans gagner le classement général final. On rappelle qu'il avait terminé 3e. Il avait pris le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux et malheureusement, il avait perdu dès le lendemain car piégé par ses adversaires qui étaient Stéphane Roche ou Pedro Delgado.
Merci Olivier Perrier, restez avec nous cet après-midi. On fait le tour ensemble sur France Bleu. Louis de Bergevin, rappelez-nous la situation de course, s'il vous plaît. Toujours Remco Evenepoel, a priori, qui est bien parti pour gagner cette étape. Hein.
Ouais, Remco Evenepoel qui va très vite. Hein. Il est premier au deuxième pointage intermédiaire. Il a 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, 23 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard et 38 sur Primoz Roglic. Il semble que Vingegaard ait ensuite perdu un peu de temps dans la descente. Mais en tout cas, ça y est, Primoz Roglic qui vient d'arriver, il a balayé le temps qui tenait jusque-là de Victor Campenaerts. 18 secondes d'avance, c'est montré, ça montre la supériorité de ces quatre coureurs qui sont extrêmement rapides. On attend de voir Tadej Pogacar, le maillot jaune, passer au troisième point intermédiaire, mais il semble que le maillot jaune est bien accroché sur ses épaules, ça va être difficile quand même d'aller le chercher.
Ouais, restez avec nous sur France Bleu, vous ne ratez rien cet après-midi contre la montre décisive au milieu des vignes ici en Bourgogne, entre Nuit Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Je ne sais pas si François Sauvestre est toujours avec nous sur la moto France Bleu. Pas encore, il y a des petits problèmes de connexion. En tout cas, Tadej Pogacar, il est bien planté, bien positionné sur sa machine. Remco Evenepoel, pardon, avec son maillot blanc aussi, le spécialiste du contre-la-montre. Et puis surtout, Louis de Bergevin, cet après-midi, sur les routes, sur les bords de route, il y a beaucoup de monde. Hein.
Ouais, énormément de spectateurs qui viennent encourager. C'est vrai que le parcours est ramassé. Il y a 25 km pour ce contre-la-montre. C'est beaucoup moins que les 160, 180, 200 km qu'on a pu connaître jusque-là. Donc il y a beaucoup de monde sur les bords des routes, dans les vignes. Et la superbe image avec le public tout à l'heure, c'est quand Julien Bernard, le local du coin, oui, s'est carrément arrêté dans la montée. Il y avait son fan club avec des pancartes. Il s'est arrêté, il a posé le pied par terre pour embrasser sa femme et son fils. C'est vrai que lui, il n'a pas d'enjeu pour le classement général.
Il a fait pépère. Voilà, il a profité de l'instant. Hein. En tout cas, il y en a un qui le fait moins pépère, c'est Tadej Pogacar, et vous êtes derrière lui, François Sauvestre.
C'est impressionnant les trajectoires, les relances après les virages. On vient de traverser avec Tadej Pogacar la ville de Chambol-Musigny après la descente et il atteint des vitesses assez folles. Au moment où il est passé sous un nouveau point intermédiaire, je ne sais pas si Louis de Bergevin a eu l'info pour calculer le retard ou savoir,
ouais,
si Tadej Pogacar
avait l'info, Louis.
Ouais, un petit peu son retard par
exactement
rapport à Remco Evenepoel.
Et c'est impressionnant parce que Tadej Pogacar avait 10 secondes de retard, il en a repris 4, il n'a plus que 6 secondes d'écart sur Remco Evenepoel. On rappelle que pour prendre le maillot jaune, Remco Evenepoel devrait avoir 50 secondes d'avance. On en est loin et Tadej Pogacar est très solide derrière le champion du monde du contre-la-montre.
Et on vit ça évidemment sur France Bleu, on fait le tour ensemble. Et oui, donc François, mis à part ces deux beaux sportifs quand même. Remco, un petit souci pour Remco Evenepoel, un problème de dérailleur, lui, de Bergevin.
Ouais, on dirait il a sauté un petit peu sur son vélo en regardant son dérailleur. Il a coupé sa position aérodynamique. Oh. C'est hyper important pour pénétrer l'air et pour avoir moins de résistance pour aller plus vite. Il a dû s'arrêter de rouler comme ça. Il continuait d'avancer. Il a regardé
Il a arrêté de pédaler. Je pense, ouais, qu'il a dû avoir un saut de chaîne. Il arrête de pédaler.
Mais c'est reparti.
La chaîne se remet en place et il repart.
Il a pas perdu trop de temps. Mais c'est vrai que dans ce genre d'exercice, on compte la moindre seconde. Donc ça va compter pour lui à l'arrivée. Même si là, il est sur du plat. Remco Evenepoel, c'est peut-être ce qu'il préfère. La partie où il va essayer de gagner encore un petit peu de temps. On rappelle, 6 secondes d'avance seulement sur Pogacar au 3e pointage intermédiaire. 3e sur 4.
Ouais, sur la moto France Bleu, François Sauvestre, est-ce que comme moi en début d'après-midi, quand j'ai fait le trajet à moto derrière Marc Cavendish, vous sentez les odeurs de saucisses et de grillades des spectateurs qui sont en bord de route?
Oui, on voit beaucoup de monde, effectivement, et vous en avez parlé sur France Bleu déjà, notamment dans cette côte de Vergy, avec beaucoup de monde, et effectivement la fête pour Julien Bernard, le local de l'étape. Et il y avait effectivement quelques pique-niques. On a vu des joueurs d'accordéon, des grilleurs de saucisses, on a vu de la couleur, du jaune, du rouge, enfin un peu beaucoup de drapeaux aux effigies de tous les pays, beaucoup de drapeaux slovènes, évidemment. Il y en a certainement beaucoup qui sont pour Tadej Pogacar. On va pas oublier Primoz Roglic, qui court en ce moment dans ce parcours de 25 km 300 sur les routes au milieu du vignoble, le tout dans un paysage absolument magnifique. C'est vraiment un chrono grand cru cette année.
Ouais, et Jonas Vingegaard qui vient de passer la ligne, le Louis de Bergevin.
Ouais, et ce qui est à retenir, c'est qu'il a perdu beaucoup de temps sur Primoz Roglic. Il termine derrière Primoz Roglic, Jonas Vingegaard à 3 secondes de son ancien coéquipier, alors qu'il était devant, hein, notamment au 3e pointage intermédiaire. Il avait encore 15 secondes d'avance, et bien il les a perdus sur la fin, Jonas Vingegaard. On regarde l'arrivée de Remco Evenepoel bientôt. Ça se joue entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, hein, pour la victoire cet après-midi.
Ouais, il est pas loin du tout, hein, Remco Evenepoel. Il est aux 500 mètres. On vit ça avec vous, Louis de Bergevin, toujours au milieu de la foule, hein, ici, ouais, à Gevrey-Chambertin.
Remco Evenepoel, il est parfaitement placé sur son vélo aérodynamique. Il va prendre le meilleur temps provisoire en attendant Tadej Pogacar. Il se relève un petit peu, Remco Evenepoel, pour passer les deux derniers virages avant la ligne d'arrivée. Il lui reste moins de 300 mètres désormais. Allez, le sprint pour Remco Evenepoel. 29-26, c'est le temps de Primoz Roglic. Remco Evenepoel, il va passer en dessous, c'est sûr, il va prendre ce meilleur temps. Il lui reste quelques mètres, 100 mètres pour Remco Evenepoel. Il s'est remis en position aérodynamique. Là, il pédale, les bras devant la tête, la tête rentrée dans les bras. 28-52 pour Remco Evenepoel. 34 secondes d'avance sur Primoz Roglic.
Et on est derrière Tadej Pogacar avec vous encore, François Sauvestre, sur la moto France Bleu.
qui vient passer sous la barrière des 2 km, encore 2 km à parcourir, un peu moins pour Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France 2020 et 2021, qui va évidemment tout donner pour aller empêcher Remco Evenepoel de boucher ses 40 secondes qui lui manquaient au classement à l'avant cette étape. Et va-t-on assister aujourd'hui entre Nuit-Saint-Georges et Jaurès-Chambertin à une passation de pouvoir au moins temporaire sur ce classement général? Tadej Pogacar va donc tout faire pour aller égaler au moins le temps de Remco Evenepoel. Ça roule vraiment très très vite dans ces deux derniers kilomètres pour le champion slovène.
Ouais, selon le pointage GPS, Pogacar a 12 secondes de retard sur Remco Evenepoel. Ça veut dire, Louis Bergevin, que à ce stade il conserve son maillot jaune.
Ouais, il va garder son maillot jaune normalement, hein, sauf une énorme chute. Hein. Il va perdre un petit peu de temps, mais il avait 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Il va peut-être avoir entre 10 et 20 secondes de retard probablement. Remco Evenepoel qui a quand même écrasé le contre-la-montre. 34 secondes d'avance sur le deuxième pour l'instant, Primoz Roglic. Remco Evenepoel qui va normalement remporter cette étape. Tadej Pogacar, il lui reste un peu moins de 900 mètres. Il est à 55 km heure là, hein, sur du plat. Tadej Pogacar dans une belle position aérodynamique. Normalement, Remco Evenepoel remporte l'étape et Tadej Pogacar va être deuxième à l'arrivée, toujours en jaune.
Ouais, vous avez encore quelques mètres à rester derrière Tadej Pogacar. François Sauvestre, toujours bien posé sur sa machine, le maillot jaune.
Ouais, on le voit, on l'aperçoit au loin devant nous, parce qu'il y a évidemment beaucoup de motos et de voitures suiveuses également, mais on l'a toujours dans le viseur, la fusée jaune. Tadej Pogacar qui s'élance dans ses 500 derniers mètres. Il vient de passer le panneau 250, encore 250 mètres à parcourir pour Tadej Pogacar, évidemment en position aérodynamique, au même titre que Remco Evenepoel, avec tout l'équipement qu'il faut, avec le casque aérodynamique, tout ce qu'il faut pour aller grappiller ses secondes au moment où il s'apprête à terminer sa course.
Oui, Tadej Pogacar qui arrive un petit peu en retard par rapport à Evenepoel.
Combien de temps va-t-il perdre sur Evenepoel? Combien de temps? C'est 11 secondes, 12 secondes perdues par Tadej Pogacar. Victoire de Remco Evenepoel sur ce contre-la-montre à Nuit-Saint-Georges. Mais Tadej Pogacar est toujours en jaune. Il conserve un peu plus de 30 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Très beau succès quand même pour le belge champion du monde du contre-la-montre.
Oui, Tadej Pogacar, vous l'avez dit, qui conserve son maillot jaune. On va évidemment suivre en temps réel le classement général, comment il s'articule désormais. Donc Pogacar toujours premier, Evenepoel toujours deuxième. Après, à voir pour peut-être la troisième place de Vingegaard, est-ce qu'elle évolue un petit peu? Je ne sais plus quel était l'écart entre Roglic et Vingegaard au classement général. Voir si peut-être Roglic repasse devant. Louis, si
ils
je ne me trompe pas,
24 secondes d'écart, hein, 24 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard. Donc il va rester troisième, parce que il est quand même devant Primoz Roglic. Hein. Non, en effet, il est derrière Primoz Roglic, mais il perd seulement 3 secondes sur ce contre-la-montre. Donc il est bien devant Primoz Roglic encore au classement général. Ça ne bouge pas. Pogacar premier, Evenepoel deuxième, Vingegaard troisième.
Et sachez que les vélos de contre-la-montre, ils ont été contrôlés tous aujourd'hui, pratiquement tous, au départ ce matin et à l'arrivée cet après-midi, pour vérifier bien qu'ils soient conformes à la réglementation de l'UCI. Et Louis de Bergevin, justement, ce matin, vous êtes allé voir Gilles Martinet. Il est mécanicien dans l'équipe Decathlon AG2R et c'est lui notamment qui est venu faire peser un vélo de chrono de son équipe, peut-être même le vélo qui a été utilisé aujourd'hui par Bruno Armirail, le champion de France du contre-la-montre, un vélo pesé pour être sûr qu'il respectait la réglementation de l'UCI. Explication de Gilles Martinet.
En fait, on est passé ce matin, on doit passer tous nos vélos de chrono et j'ai fait une petite modification sur celui-ci. Du coup, je voulais être sûr qu'on soit bien dans les règles au niveau des normes UCI. Donc il y a en gros trois règles à respecter qui sont recul de selle, longueur de barène et puis aussi une inclinaison pour avoir un drop qui soit dans les clous. Et donc là, a priori, c'est tout bon d'après ce que je viens de voir.
Et si jamais vous êtes trop long, trop haut, ils peuvent vous dire là, ça passe pas.
Ils nous disent que ça passe pas et de ce fait, il ne peut pas prendre le départ avec ce vélo. Donc c'est d'où l'importance de venir contrôler avant. Après, en règle générale, il n'y a pas de modif de fait pendant toute la saison. Donc on part du principe que si le vélo est passé en début d'année sur une autre course où ils ont les mêmes contrôles, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème là-dessus. Quoi.
Et les modifications, c'est pour que le coureur soit plus à l'aise?
Là, on a été chercher du confort, c'est ça. Ouais. On a remonté un petit peu le poste. Du coup, je voulais être sûr qu'on n'ait pas modifié les règles.
Gilles Martinet, mécanicien dans l'équipe Decathlon AG2R. Restez avec nous sur France Bleu. On vous fait un petit récap juste après la pub de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la route du Tour de France.
Euro 2024. L'équipe de France est en quart de finale. Ce vendredi, Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, sera face à son idole, Cristiano Ronaldo. Portugal-France, en direct du Volkspark Stadion de Hambourg, ce vendredi, en intégralité sur France Bleu, dès 20h30. France Bleu, 100% supporter des Bleus. Grand Frais.
Oui, bonjour, c'est l'artificier. Dites pour votre feu d'artifice, là, je peux pas, j'ai Grand Frais. Franchement, leurs produits en mettent plein les yeux et surtout plein les papilles.
Grand Frais, ce sont des dizaines de promotions chaque jour sur vos produits du quotidien pour un juste rapport qualité-prix. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais !
Le meilleur marché. Quelqu'un d'autre, c'est le roman tant attendu de Guillaume Musso.
Côte d'Azur, printemps 2023. Qui a tué l'insaisissable Oriana Di Pietro, retrouvée sur un yacht au large de Cannes ? Un homme et trois femmes livrent leur témoignage. Personne ne ment, et personne n'est d'accord sur la vérité.
Quelqu'un d'autre, de Guillaume Musso.
Une histoire fascinante et imprévisible qui ne se résout qu'à la dernière ligne.
Aux éditions Calman Levy. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ici, sur France Bleu, on fait le tour ensemble. Mathieu Ferry.
Et c'est un Belge qui gagne l'étape du jour aujourd'hui sur le Tour de France. Remco Evenepoel, le plus fort sur le contre-la-montre en Bourgogne. On vous récapitule tout.
France Bleu, on fait le tour ensemble.
Avec Louis de Bergevin qui avait les mains sur les chronos. Je suis sûr que vous aviez un chrono dans chaque main, Louis de Bergevin, pour sur ce contre-la-montre aujourd'hui. Et donc, c'est Remco Evenepoel qui écrase tout le monde.
Pas de chrono pour moi, il y en avait sous les yeux. Mais par contre, un stylo sur lequel j'ai noirci une feuille avec plein de couleurs pour noter l'avancée de cette étape. Le contre-la-montre entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, remporté par Remco Evenepoel en 28 minutes 52. Il devance Tadej Pogacar de 12 secondes. C'est important, ces 12 secondes. On va voir pour le classement général ensuite. Troisième, Primoz Roglic. Le quatrième, c'est Jonas Vingegaard à 37 secondes de Pogacar. Et une belle cinquième place pour Victor Kampenaerts, le Belge, qui a longtemps eu le meilleur temps, qui est à près d'une minute de Tadej Pogacar. Au classement général, ça ne bouge pas en tête. Tadej Pogacar est toujours premier. Remco Evenepoel, deuxième, à 33 secondes. Il en reprend un peu moins de 20 secondes. Troisième, Jonas Vingegaard, et Primoz Roglic récupère la quatrième place. Il devance Juan Ayuso, le coéquipier de Tadej Pogacar.
Et beaucoup de monde en bord de route aujourd'hui en Bourgogne, notamment à Gevrey-Chambertin, autour de vous, notamment Olivier Estrin. Bonjour Olivier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Olivier, oui, donc de France de Bourgogne, oui, allez-y Olivier, allez-y. Beaucoup de monde.
Ouais, je vous en prie. Ben voilà, bien sûr, beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée qui est vraiment sur la place du village. On ne peut pas faire mieux. L'aller à la place des marronniers, que c'est la place des platanes. Et bien sûr, ici, on est sur une terre de vin. Évidemment, c'est le signe distinctif de cette épreuve 100% Côte d'Or. On est au cœur de l'excellence de la Bourgogne. Et je suis bien sûr avec un viticulteur, Philippe Imbert. Bonjour Philippe Imbert.
Bonjour, bonjour à tous.
Philippe Imbert, qui est adjoint au maire de Gevrey-Chambertin, en charge du sport et de la viticulture. On ne peut pas rêver mieux.
C'est ça, tout à fait.
Philippe Imbert, vous êtes viticulteur à la retraite, mais votre domaine s'est transmis. Expliquez-nous la singularité de ce terroir où nous sommes. D'ailleurs, on ne parle pas de terroir ici, on parle de climat pour parler des parcelles.
Voilà. Donc la commune de Gevrey-Chambertin possède 550 hectares de vignes qui se composent en décomposant de 80 hectares de crus et de premiers crus. Alors, dans les crus, nous avons le grand cru qui est le Chambertin Côte Bèze, qui a été planté par les moines en 620. Et nous avons les neuf grands crus à côté, Mazy Chambertin, Charles Chambertin, Griot Chambertin, Latricière Chambertin. Enfin, les neuf sont là qui finissent avec le mot Chambertin au bout. Et nous avons 26 premiers crus. Petite Chapelle, Lavaux Saint-Jacques, Les Cassés, Cobo-Moine, enfin voilà, que des noms qui font rêver, dans des climats différents, puisque quand on prend les Poissonneaux, le Clos des Varois qui est au fond de la Combe, qui sont des terres argileuses, et quand on prend les Cassés, les Lavaux, c'est carrément de la lave dessous et de la terre sablonneuse, quoi, voilà. Et c'est ça qui fait le goût, parce que ce n'est pas le même goût les vins, là, il y a le même fond de Pinot Noir, mais ce n'est pas les mêmes parfums, dus au sous-sol, ce qu'on appelle maintenant le climat. Voilà.
Il y a aussi un travail exceptionnel qui est fait derrière, le sol n'explique pas tout. Il faut aussi des hommes, un savoir-faire pour tout ça.
Ah voilà, alors oui, alors les vins, si vous voulez, dans le temps, une belle année, comme tout le monde vendait aux négociants, c'est-à-dire qu'on mettait le vin pressé en cuve et ça partait directement en camion. Maintenant, beaucoup de vignerons font de la bouteille. Alors il faut faire des vins qui sont soit plaisants tout de suite. Alors déjà, pour faire du bon vin, il faut rentrer des raisins bien mûrs. Pas beaucoup, raisonnablement, 40 hecto-hectares. À 44 hecto-hectares pour les villages, on descend à 35 dans les grands crus et les premiers crus, 35-38 selon la demande du syndicat, qui est donc signée ensuite par la préfecture, avec l'accord du préfet. Voilà.
Philippe Imbert, vous êtes aussi adjoint en charge des sports, et la victoire de Remco Evenepoel, elle ne vous surprend pas? Vous l'avez vu s'entraîner dans les vignes il y a 15 jours.
Je l'ai vu passer à côté de moi dans la ville là-bas, vers les Hauts-Bas des Mazis-Chambertin. Oui, en effet, vu là, c'était la vitesse où ça allait. On l'a reconnu avec son maillot arc-en-ciel, bien sûr. C'était à voir. C'était un matin de bonheur. Il était même 8 heures le matin. C'est ce qu'on appellerait, nous, une petite fusée. Quoi. Voilà, voilà, voilà. C'était tout à fait ça. Hein.
Et oui. Ce soir, pour célébrer la victoire, qu'est-ce qu'on lui sert?
Ah ben, je pense qu'il va avoir un magnum de la ville de Gevrey-Chambertin.
Déjà, et pourquoi nous, on n'a pas de magnum?
Il y a plusieurs autres personnalités. On va leur remettre des cadeaux, quoi. Voilà, voilà. Voilà.
Je pense que c'est un cadeau dont il se souviendra, Remco Evenepoel. On lui souhaite de savourer vraiment cette victoire et de savourer cette excellence de la Bourgogne. Allez, sans modération pour Remco. Et on invite bien sûr tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre un jour en Côte d'Or pour voir ces magnifiques paysages qu'on a pu voir aujourd'hui sur les ondes de la radio et qu'on retrouve sur francebleu.fr.
Merci Olivier Estrin, France Bleu Bourgogne, avec ce fabuleux contre-la-montre au milieu des vignes cet après-midi en Bourgogne. Évidemment, le vin c'est bon, mais c'est à consommer avec modération. On fait pas d'excès, on savoure, on adore ça et on savoure aussi Vanessa Paradis qui va nous chanter l'eau et le vin cet après-midi sur France Bleu. On fait le tour ensemble.
Vanessa Paradis, l'eau et le vin sur France Bleu, le vin parce qu'on est au milieu des vignes aujourd'hui. On est en Bourgogne, c'est le Tour de France.
On fait le tour ensemble sur France Bleu.
Et c'est Remco Evenepoel qui s'impose au milieu des vignes cet après-midi, ici donc à Gevrey-Chambertin. D'ailleurs, on va l'écouter, Remco Evenepoel, sa réaction juste après l'arrivée, après sa victoire d'étape.
Yeah, crazy.
Oui, c'était fou.
I was on a good day.
J'étais dans un grand jour. La montée était très dure parce que je voulais commencer vite, mais je devais garder des forces pour la montée, ce n'était pas facile. Après, la descente était technique et rapide, on était à la limite. Mais j'ai aimé chaque mètre de ce contre-la-montre, c'était incroyable, donc je suis super content.
Olivier Perrier avec nous cet après-midi, expert historien du cyclisme. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand cru, Olivier, ce contre-la-montre cet après-midi au milieu des vignes?
Ah bah en tout cas, il dégage les quatre grands favoris du Tour, hein, les fameux quatre fantastiques, puisqu'Evenepoel donc gagne l'étape devant Pogacar, Roglic et Vingegaard. Donc c'est vraiment les quatre grands favoris annoncés de ce Tour de France. Donc comme quoi, un contre-la-montre, hein, ça ment jamais. Et ils sont déjà installés aux quatre premières places du classement général. Donc oui, c'est un grand cru et ça promet pour la suite.
Ça veut dire aussi que ce classement, il est peut-être un peu figé ou pas forcément, parce que reste encore 15 jours, Olivier, sur la route du Tour.
Il reste 15 jours et puis avec un terrain qui sera très varié puisque dès dimanche, il y a l'étape des chemins blancs qui peut créer beaucoup de dégâts autour de Troyes. Et puis, il y a le massif central que vous connaissez bien avec l'arrivée à Super-Lioran. Et puis, bien sûr, les Pyrénées que nous attendons tous avec impatience. Et puis, on va monter crescendo dans les difficultés avec les Alpes en fin de tour et ce dernier contre-la-montre. Donc non, la course n'est pas jouée même s'il y a des écarts déjà qui se sont dessinés au classement général.
François Sauvestre, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, hein, au micro France Bleu en fond de ligne d'arrivée. Vous qui avez suivi sur la moto France Bleu cet après-midi, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, vous l'avez dit tout à l'heure pendant le direct, c'était impressionnant ces deux bonhommes quand même sur le vélo. Hein.
C'était impressionnant et on compare aussi les écarts avec le reste de la journée. On en a suivi d'autres coureurs et on a bien senti que sur la ligne d'arrivée, la tension montait au fur et à mesure que 17h approchait et au fur et à mesure que les leaders, les cadors du peloton se rapprochaient de la rampe de lancement. Et on a vu que tout de suite, c'est parti très vite. On s'est d'abord calé dans la roue avec la moto France Bleu et Céline Guérilly dans les roues de Jonas Vingegaard. Il est parti très fort, c'est au fur et à mesure qu'il a perdu du temps. On s'est ensuite arrêté, on a vu passer Remco Evenepoel. Pleine balle, comme il l'a expliqué à l'instant, pour marquer les esprits et marquer le tempo dès les premiers kilomètres de ce chrono. Et puis Tadej Pogacar a été impressionnant tout au long de ce chrono. On l'a suivi quasiment tout au long des 25,3 kilomètres ici entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Vraiment des pointes de vitesse assez impressionnantes, y compris sur la fin, sur le plat, quasiment du 55, 56, 57 kilomètres heure. C'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment les autres coureurs ont regardé ça depuis les paddocks, quand une fois qu'ils sont revenus en zone là où sont stationnés les bus, hein, du côté de Nuits-Saint-Georges. Mais c'est certain que tout le peloton a été impressionné par la performance des quatre fantastiques.
Luc Bergevin, rappelez-nous un petit peu quand même les temps du jour, à la fois sur l'étape, donc Remco Evenepoel vainqueur, et juste après, rappelez-nous aussi le classement général, en quoi il a évolué ou pas. On commence par l'étape, oui.
Bah, l'étape, c'est Remco Evenepoel hein, qui l'emporte. Il avait annoncé le Belge avant cette étape ce contre-la-montre qu'il voulait la gagner. C'est un spécialiste, 28 minutes 52 pour lui. Il met Tadej Pogacar derrière à 12 secondes et surtout Primoz Roglic à 34 secondes et Jonas Vingegaard à 37 secondes. Ça veut dire aussi que Tadej Pogacar a fait mieux que résister. Oui. Il avait 45 secondes d'avance au classement général au départ, il avait un petit matelas, il n'en a perdu que 12. Donc ce que ça donne au classement général,
du coup Pogacar prend un peu plus large aussi au classement général.
Bah, Pogacar, il perd un petit peu sur Remco Evenepoel. Il n'est plus qu'à 33 secondes de Remco Evenepoel. Par contre, il prend de l'avance sur Vingegaard et Roglic. Il est maintenant à 1 minute 15 de Vingegaard, qui est troisième, et à 1 minute 36 de Primoz Roglic, qui est quatrième. Remco Evenepoel, qu'on a entendu tout à l'heure, il a dit aussi que Tadej Pogacar était presque imbattable hein, pour ce maillot jaune. Ça veut dire qu'il voit que malgré avoir, il a écrasé le contre-la-montre, mais malgré ça, Tadej Pogacar a gardé son maillot jaune.
Ouais, et puis on ne sait pas à quel point on bluffe du côté de la Visma Lease the Bike, parce que j'ai vu Christophe Laporte tout à l'heure, après son contre-la-montre, je lui ai demandé, alors comment va Jonas? Il m'a dit, ben en fait, il va mieux que ce qu'on pensait. Alors, mais pourtant, quand on voit le contre-la-montre d'aujourd'hui, Vingegaard perd un peu de temps, donc il va falloir surveiller ça dans les prochains jours, lui. Ouais, hein.
Exactement, alors après, on le rappelle, hein, Jonas Vingegaard, il a lourdement chuté sur le Tour du Pays Basque au début de l'année. Il a été très gravement blessé, notamment, je crois qu'il a eu un poumon perforé, en tout cas des côtes cassées. Il a pas pu s'entraîner comme il fallait pour ce Tour de France et il a pas pu beaucoup se préparer au contre-la-montre. C'était un petit peu la même chose que Tadej Pogacar l'an dernier, qui s'était blessé à la main, qui avait dû reprendre tardivement, qui a pas pu s'entraîner sur le contre-la-montre. Et on se rappelle que c'est sur cette épreuve-là qu'il avait perdu beaucoup de temps. Donc peut-être que c'est aussi un peu difficile pour Jonas Vingegaard. On savait en tout cas qu'il serait pas à 100%.
Ouais, et une des images du jour aussi, hein, c'est Julien Bernard, le régional de l'étape, le local de l'étape, qui a kiffé, qui a profité. Il est passé au milieu du virage JB, le virage Julien Bernard, avec tous ses supporters, sa famille qui était là et qui l'a applaudi. Et Julien Bernard qui s'est même arrêté, qui a eu le temps de faire un petit bisou, il a bien raison. Et il est reparti finir son chrono. Et d'ailleurs, Julien Bernard, il a choisi sa chanson aujourd'hui sur France Bleu. C'est la playlist des coureurs. Julien Bernard qui a choisi Louise Attaque, Je t'emmène au vent. Et on écoute ça sur France Bleu. On fait le tour ensemble jusqu'à 18h.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Louise Attaque, Je t'emmène au vent, chanson choisie par Julien Bernard, parce que tous les soirs sur France Bleu, on vous diffuse la playlist des coureurs.
France Bleu, on fait le tour ensemble.
Et celui qui mettait un vent à tout le monde, Olivier Perrier, sur le Tour de France dans les années 90, c'était Miguel Indurain, l'Espagnol, quintuple vainqueur du Tour de France. Et lui aussi, hein, il a marqué l'histoire du Tour avec ses chronos. Vous qui êtes historien du cyclisme, Olivier, racontez-nous tout.
Ah ben c'était un bricoleur parce qu'il avait un énorme marteau pour taper très fort sur la tête de ses adversaires dès le premier contre-la-montre. Il avait remporté suite 91 entre Argentan et Alonso, mais pour 8 secondes d'avance seulement sur Greg LeMond. Mais en 1992, alors qu'il a déjà gagné son premier Tour de France l'année précédente, il met 3 minutes d'avance au deuxième de l'étape, Armand de la...
3 minutes d'avance, donc sur 3 minutes d'avance sur remède kilomètre, c'était Olivier ?
Sur 65 km, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des contre-la-montre qui sont à peu près entre 25, 30, 40 km maximum sur un Tour de France. À l'époque, on avait des étapes de contre-la-montre de plus de 60 km. Jean-François Bernard pourrait nous en parler, lui qui était coureur encore à ce moment-là. Et donc, De Las Cuevas à 3 minutes, et les grands favoris du Tour, comme Greg LeMond, Bugno, déjà à plus de 4 minutes. Et Indurain avait cette habitude-là, c'est qu'à chaque premier grand contre-la-montre, il assommait le Tour. Il le fait aussi en 93 au lac de Madine, où il gagne avec plus de 2 minutes d'avance sur un Gianni Bugno ou Eric Brocking, ses adversaires de l'époque. En 94 à Bergerac, il met plus de 2 minutes aussi à Tony Rominger, près de 3 minutes, près de 4
4 minutes d'avance donc sur pour Miguel Indurain. Il y a une petite coupure de liaison avec Olivier Perrier qui nous raconte l'histoire du Tour, hein, évidemment, avec, il l'évoquait, Miguel Indurain, l'Espagnol, qui a marqué donc les années 90, qui s'imposait régulièrement sur les chronos du Tour de France. Mais cet après-midi, c'est bien Remco Evenepoel, le champion belge, qui s'impose ici à Jaurès-Chambertin avec 12 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, le Slovène, qui conserve cependant son maillot jaune de leader avant une étape qui arrivera du côté de Colombey-les-Deux-Églises demain, la patrie du général de Gaulle. Et d'ailleurs, Christian Prudhomme nous dit tout sur cette étape demain, le patron du Tour, qui nous explique ça avec Emmanuel Collardet.
Bonjour Christian Prudhomme.
Bonjour.
Étape numéro 8, 183 km de Semur-en-Auxois à Colombey-les-Deux-Églises. Départ donc de cette belle cité médiévale de Côte d'Or, direction les terres du général de Gaulle en Haute-Marne. Autrement dit, une belle étape patrimoine, hein, mais aussi un beau défi pour le peloton, car c'est un parcours qui est vraiment très loin d'être plat.
Oui, surtout en première partie de parcours, il y a de nombreuses côtes. Dès la traversée de Vito, avec la côte de la Justice qui est très raide, je ne dis pas que tout se jouera en début d'étape, mais le sort de l'échappée se jouera beaucoup en début d'étape, précisément parce que c'est très vallonné, et qu'ensuite, en revanche, le final, lui, est tout à fait plat et donc favorable à un peloton lancé à vive allure. De Semur-en-Auxois, qui a déjà accueilli le Tour de France en 2007, qui a accueilli les championnats de France, jusqu'à Colombey-les-Deux-Églises, chez le général de Gaulle, un formidable symbole, l'année des 80 ans du débarquement en Normandie, partant de Florence en Italie. Nous savions très bien que nous ne pourrions pas aller jusqu'à la Normandie. Arriver sur les terres du général de Gaulle, c'est quelque chose de fort et de hautement symbolique, bien sûr.
C'est donc la première arrivée à Colombey-les-Deux-Églises, mais le Tour a déjà croisé la route du général.
L'arrivée à Colombey est à 10 mètres près, le lieu où le général de Gaulle était en 1960, lorsque le peloton du Tour s'est arrêté. Donc c'est un vrai symbole, le symbole évidemment du peloton qui s'arrête. Ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, avant lui François Hollande, avant lui Nicolas Sarkozy, sont régulièrement dans la voiture sur le Tour de France. Ça n'était pas le cas autrefois. Et c'est la seule et unique fois où le peloton s'est arrêté pour saluer le général de Gaulle.
Merci Christian Prudhomme.
Une minute, Louis de Bergevin, pour récapituler cette étape du jour aujourd'hui au milieu des vignes en Bourgogne et la victoire donc du champion belge Remco Evenepoel.
Il y avait 25 km à parcourir en contre-la-montre. Remco Evenepoel qui a mis 28 minutes 52 pour les parcourir. Il devance Tadej Pogacar, le maillot jaune, de 12 secondes, suivi de Primoz Roglic et de Vingegaard qui se place 4e. Ça veut dire qu'au classement général, Tadej Pogacar est toujours en jaune, mais Remco Evenepoel est derrière à 33 secondes, suivi de Jonas Vingegaard 3e. Le quatrième, c'est Primoz Roglic. A noter aussi la statistique, Mathieu, pour les fans de cyclisme, c'est que Remco Evenepoel remporte une étape sur le Tour de France. Il avait déjà remporté des étapes sur la Vuelta et sur le Tour d'Italie. C'est rare, hein, les vainqueurs d'étapes dans les trois grands tours. Et donc, ça y est, il peut rentrer dans ce cercle fermé.
Merci Louis de Bergevin, merci François Sauvestre, merci Olivier Perrier, historien du cyclisme, d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce contre-la-montre au milieu des vignes. Merci à Stéphanie Pernon, merci à Olivier Estran de France Bleu Bourgogne, merci aussi à Brice Garcia à la réalisation et Hélène Langlois. On fait le tour ensemble sur France Bleu. Vous le savez, c'est votre émission de 17h à 18h tous les soirs sur la route du Tour. Excellente soirée.
France Bleu est partenaire du village préféré des Français 2024 sur France 3. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat. Partons avec Stéphane Bern à la découverte des 14 villages en compétition cette année. Alors, qui succédera à Esquelbecq dans les Hauts-de-France, élu village préféré en 2023? Le village préféré des Français 2024, jeudi 11 juillet à 21h10 sur France 3, avec France Bleu.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Jean Reno nous parle de son premier roman, Emma.
Depuis longtemps, je voulais raconter l'histoire romanesque d'Emma, une jeune femme qui se retrouve au sultanat d'Oman, au cœur d'une incroyable affaire d'État. Elle va faire de ses dons, mais aussi de ses souffrances, sa plus grande force.
Emma, de Jean Reno, un roman d'aventure brûlant d'amour et de suspense. Un livre XO.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
France Bleu, radio officielle du Tour de France. Demain, ça sera la huitième étape, pardon, entre Sémur-en-Auxois et Colombey, les deux églises. 183 kilomètres pour les coureurs avec 4-5 difficultés même et un sprint intermédiaire. Colombey, les deux églises, la patrie du général de Gaulle. On vivra ça évidemment sur France Bleu avec Louis de Bergevin et François Sauvestre qui seront en tribune et sur la moto France Bleu pour ne rien rater de cette étape. Et puis, vous n'oubliez pas, vous allez aussi sur internet, francebleu.fr, sur l'appli ici, sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos, les classements de l'étape, le classement général pour le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois et évidemment toutes les photos, les vidéos prises par tous les journalistes et les reporters de France Bleu partout en France pour faire vivre ce tour. France Bleu, radio officielle du Tour de France.
Très belle fin de journée avec France Bleu Touraine, il est 18h.